de Mime le nain. Après le départ de Beleg, et cela se passait le deuxième été après la fuite de Turin hors du Doriath, les choses allèrent fort mal pour les hors-la-loi. Il y eut des pluies hors saison, et les orques des vallées du nord, plus nombreux que jamais, et par la vieille route du sud, ils franchissaient le Teiglin et infestaient tous les bois des frontières ouest du Doriath. Et il n'y avait plus ni sécurité ni tranquillité nulle part, et la bande de Turin était plus souvent gibier que chasseur. Un jour qu'ils étaient tapis dans les ténèbres sans feu, Turin contempla sa vie et trouva qu'il y avait bien lieu de chercher à l'améliorer. « Il me faut trouver un refuge sûr, » pensa-t-il, « et faire quelques provisions en vue de l'hiver et de la faim. » Et le jour suivant, il mena ses hommes au loin, bien plus loin qu'il n'avait jamais encore été, depuis le Teiglin et les marches du Doriath. Après avoir cheminé 3 jours durant, ils firent halte à la lisière occidentale d'un bois aux abords du Val du Sirion. Là, le pays se faisait plus aride et dégarni à mesure qu'il gagnait les hautes landes. Peu après, comme retombait la grise lumière d'un jour de pluie, Turin et ses hommes s'abritèrent sous un bosquet de houx. Dans la clairière dénudée au-delà, quantité de grosses pierres étaient appuyées ou éboulées les unes contre les autres. Tout était immobile, sinon la pluie qui dégouttait sur le feuillage, lorsque soudain une sentinelle hucha, et surgissant de leur abri, ils virent 3 formes encapuchonnées, vêtues de gris, qui cheminaient furtivement dans les boulis. Elles portaient chacune un grand sac, mais n'en allaient pas moins d'un pas rapide. Turin leur cria de s'arrêter, et les hommes se précipitèrent sur eux comme des chiens en chasse. Mais les individus poursuivirent leur chemin, et malgré les flèches que leur décocha Androg, 2 d'entre eux disparurent dans les ténèbres. Le 3e traînait derrière, étant plus lent ou plus lourdement chargé. Et il fut bientôt saisi, jeté à terre et plaqué au sol par quantité de mains brutales, quoiqu'il se débattît avec rage et mordit comme une bête. Mais Turin s'approcha et rabroua ses hommes. « Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? » dit-il. « Et pourquoi tant de férocité ? Voilà qui est vieux et tout petit. Quel mal pourrait-il faire ?»«
Sa mort !» dit Androg, montrant sa main ensanglantée. « C'est un orque ou une espèce d'orque. Tuons-le ! » « Ça ne mérite guère mieux pour avoir déçu notre espoir !» dit un autre qui s'était emparé du sac. « Il n'y a rien là-dedans que des racines et des petits cailloux !»«
Non, » dit Turin, « c'est barbu. Je crois bien que ce n'est qu'un nain. Laissez-le se relever et s'expliquer. »
Ainsi, Mime vint-il à figurer dans la geste des enfants de Hurin. Car il tomba à genoux aux pieds de Turin et supplia qu'on lui laissât la vie sauve.
« Je suis vieux, » dit-il. « Et pauvre, rien qu'un nain, comme vous dites, et pas du tout un orque. Mime est mon nom. Ne les laisse pas me tuer, Seigneur, sans raison comme font les orques. »
Alors Turin, en son cœur, fut pris de pitié pour lui. Mais il dit, « Tu sembles pauvre, Mime, ce qui est singulier pour un nain. Mais nous sommes plus pauvres encore, je pense. Des hommes sans feu ni lieu, et sans amis. » Si je te dis que nous n'épargnions personne par pure pitié, que serais-tu prêt à offrir pour ta rançon, à nous qui sommes dans le plus âpre dénuement ?
« Je ne sais pas ce que tu désires, Seigneur, » dit Mime prudemment.
« Pour l'instant, bien peu de choses, » dit Turin, regardant autour de lui amèrement avec de la pluie dans les yeux. « Un endroit sûr pour dormir hors des bois détrempés. Tu as certainement un tel endroit à ta propre convenance. »
« J'en ai bien un, » dit Mime, « mais ne peux pas le donner en rançon. Je suis trop vieux pour vivre sous la nue. »«
Il n'est pas vraiment nécessaire que tu vieillisses encore, »
dit Androg, s'approchant avec un couteau dans sa main indemne.
« Je peux t'éviter ça. »«
Seigneur !»
s'écria Mime, en grand effroi.
« Si je perds la vie, tu perdras la demeure, parce que tu ne la trouveras pas sans Mime. » Je ne peux pas la donner, mais je peux la partager. Il y a plus de place qu'il n'y en eut jadis, si nombreux sont-ils qui ont disparu à jamais. »
Et il se mit à pleurer. « Tu as la vie sauve, Mime, » dit Turin.
« Au moins jusqu'à ce que nous atteignions son repère, » dit Androg.
Mais Turin se tourna vers lui et dit, «
Si Mime nous amène jusqu'à sa maison sans traîtrise et si la maison est bonne, alors il aura payé rançon de sa vie, et il ne souffrira la mort aux mains d'aucun de ceux qui me suivent. Et de cela, j'en fais le serment. »
Alors Mime étreignit les genoux de Turin, disant
« Mime sera ton ami, Seigneur. Au début, j'ai cru que tu étais un elfe par ton parler et le son de ta voix. Mais si tu es un homme, c'est mieux. Mime n'aime pas les elfes. »
« Où est cette maison ?» demanda Androg. « Il la faut bonne, certes, pour qu'Androg la partage avec un nain. Car Androg n'aime pas les nains. Son peuple ne raconte pas grand bien de ces gens venus de l'Est.
« Vous jugerez ma maison quand vous la verrez, » dit Mime. « Mais vous aurez besoin de lumière en chemin, vous autres, hommes trébuchants. Je reviendrai en temps utile et je vous conduirai. »«
Oh que non !» dit Androg. « Voilà assurément ce que tu ne permettras pas, capitaine. Tu ne reverras jamais plus le vieux coquin. »«
La nuit tombe, » dit Turin. « Qu'il nous laisse un gage quelconque. Nous laisseras-tu ton sac et son contenu, Mime ?»
À ces mots, le nain tomba à genoux, à nouveau tout bouleversé.
« Si Mime n'avait pas l'intention de revenir, il ne reviendrait pas pour un vieux sac plein de racines, » dit-il. « Je reviendrai. Laissez-moi partir. »
« Non, je ne te laisserai pas, » dit Turin. « Si tu ne veux pas te séparer de ton sac, eh bien tu resteras avec. Peut-être qu'une nuit sous la ramée t'inspirera à ton tour quelque pitié à notre égard. » Mais il remarqua, et les autres également, que Mime semblait attacher plus de prix à son fardeau qu'il n'en paraissait valoir à première vue. Ils conduisirent le vieux nain dans leur morne campement, et tout en marchant, il marmottait dans une langue étrange qu'une très ancienne haine semblait hérisser de sonorités rauques. Mais lorsqu'ils lui ligotèrent les jambes, il se tut soudain. Et ceux qui montaient la garde le virent rester là toute la nuit durant, silencieux et immobile, comme une pierre, mais les yeux grands ouverts, scrutant les ténèbres de ses prunelles étincelantes. Peu avant le jour, la pluie cessa, et un vent frissonna dans le feuillage. L'aube se leva plus brillante qu'elle n'avait été les jours précédents, et de belles éclaircies en provenance du sud échancrèrent le ciel pâle et limpide aux abords du soleil levant. Mime demeurait assis, impavide et comme mort, car à présent, les lourdes paupières de ses yeux étaient baissées, et à la lumière du matin, il apparut tout flétri et racorni de vieillesse. Turin se leva et le considéra. « Il y a suffisamment de lumière à présent, » dit-il. Alors Mime ouvrit les yeux et indiqua ses liens. Et lorsqu'il fut délivré, il parla avec fureur.
« Apprenez donc, imbécile que vous êtes, » dit-il. « Ne ligotez jamais un nain. Il ne vous le pardonnera pas. Je ne souhaite pas mourir, mais pour ce que vous m'avez fait, mon cœur brûle. » « Je me repens de ma promesse. »«
Moi pas, » dit Turin. « Tu vas nous conduire à ta maison. D'ici là, nous ne parlerons pas de mort. Telle est ma volonté. »
Il fixa le nain droit dans les yeux, et Mime ne put soutenir son regard. Rares, en effet, étaient ceux qui pouvaient affronter le regard de Turin lorsque sa volonté parlait haut et fort ou que la colère l'animait. Bientôt, Mime détourna la tête et se leva.
« Suis-moi, Seigneur. » dit-il. «
Bien, » dit Turin. « Mais maintenant je vais ajouter ceci. Je comprends ta fierté. Tu mourras peut-être, mais tu ne seras plus ligoté. »
Alors Mime les ramena au lieu où il avait été fait prisonnier, et il indiqua l'ouest.
« Ceci est ma maison, » dit-il. « Vous l'avez souvent vue, j'imagine, parce qu'elle est fort haute. Nous l'appelions Charbund, avant que les elfes changent tous les noms. »
Et ils virent alors qu'il leur montrait l'Amonrud, la colline chauve, dont la cime dénudée veillait sur maintes et maintes lieux du pays sauvage.
Nous l'avons vu, mais jamais de près, dit Androg. Car peut-on seulement trouver un abri sur là-haut, ou de l'eau, ou toutes les autres choses dont nous avons besoin? Je savais bien qu'il y avait de la ruse là-dedans. Est-ce que des hommes se cachent en haut d'une colline?
Voir venir de loin peut valoir une meilleure garde que de rôder dans l'ombre, dit Turin. L'Amonrud scrute jusque dans les lointains.
Bien, Mime, j'irai et je verrai ce que tu as à montrer. Combien de temps nous faudra-t-il à nous autres hommes trébuchants pour l'atteindre?
Toute la journée jusqu'au soir, répondit Mime.
La compagnie se mit en route vers l'ouest, et Turin allait en tête avec Mime à ses côtés. Lorsqu'ils émergèrent du couvert des bois, ils cheminèrent prudemment, mais tout le pays était désert et silencieux. Ils franchirent les boulis et commencèrent à grimper, car l'Amonrud se dressait en bordure des hautes bruyères qui se déployaient entre les veaux du Sirion et le Narog, et la colline s'élevait à bien 1000 pieds au-dessus de la lande pierreuse qui s'étalait à ses racines. Sur le versant oriental, son flanc, de terre martelée, grimpait jusqu'à ses hautes crêtes et foisonnait de trochers de bouleaux et de sorbiers et de vieilles épines enracinées dans les anfractuosités de la pierre. Au pied de l'Amonrud poussaient des buissonnées d'aiglos, mais grises et nues étaient sa cime escarpée, sauf pour le sérégone qui tapissait la pierre d'écarlate. L'après-midi était déjà avancé lorsque les hors-la-loi atteignirent les bas de pente. Ils abordaient la colline à présent par le nord, car Mime les avait fait passer par là, et le soleil déclinant darda ses rayons sur la couronne de l'Amonrud, et le sérégone était tout en fleurs.
« Regardez, il y a du sang sur le sommet !»
dit Androg.
« Pas encore, » répondit Turin.
Le soleil sombrait à l'horizon, et la lumière s'évanouissait dans les ravines. La colline surgissait maintenant haut devant eux, et ils se demandèrent quel besoin était d'un guide pour atteindre un lieu si exposé. Mais à mesure que Mime les conduisait plus avant et qu'ils commençaient à gravir les derniers escarpements, ils s'aperçurent que le nain suivait une piste révélée par des signes secrets ou par une très ancienne coutume. Le chemin serpentait ici et là, et lorsqu'ils jetaient le regard de côté, de sombres gorges et des abîmes s'entr'ouvraient de part et d'autre, quand ce n'était pas le sentier qui se perdait dans des étendues de caillasses semées de failles et de trous, masquées par les épines et les ronces. Sans guide, ils auraient erré et peiné des jours durant pour gagner le sommet. Enfin, ils parvinrent à un terrain plus pentu, mais moins accidenté. Ils passèrent à l'ombre d'antiques sorbiers et dans des allées d'aiglos à la silhouette élancée, et le clair-obscur exhalait une douce senteur. Et soudain, ils se heurtèrent à une paroi de pierre presque à pic qui s'élevait très haut au-dessus de leur tête pour disparaître dans le crépuscule. « Est-ce la porte de ta maison ?» dit Turin. « Les nains aiment la pierre, dit-on. » Et il se rapprocha de Mime, de peur qu'il ne leur jouât au dernier moment un tour à sa façon.
« Non, pas la porte de la maison, mais le portail du Courtil, » dit Mime.
Il tourna alors vers la droite, le long de la paroi, et après avoir compté 20 pas, fit brusquement halte. Et Turin aperçut là une faille ménagée par l'habileté de la main ou par les intempéries. Les deux pans de roche se chevauchaient, mais une ouverture se dessinait entre eux et revenait sur la gauche. L'accès en était dissimulé par des plantes enracinées dans les crevasses au-dessus, mais s'y insinuait un raidillon pierreux qui grimpait dans l'obscurité. L'eau ruisselait le long de la faille qui baignait dans l'humidité. Ils grimpèrent l'un après l'autre. Au sommet, le chemin prenait sur la droite, puis obliquait de nouveau vers le sud, et à travers un buisson d'épines, il débouchait enfin sur un terre-plein verdoyant pour filer plus loin et disparaître dans l'ombre. Ils étaient arrivés à Bar en Nibin Neug, la demeure de Mime, dont seules les anciennes chroniques du Doriath et de Nargothrond se souvenaient, et que nul homme n'avait jamais vu. Mais la nuit tombait, et à l'Orient le ciel était jonché d'étoiles, et il saisissait encore mal la disposition de ce lieu étrange.